Donc aujourd'hui, nous allons parler donc des questions financières, euphorie, bulle et crack, les raisons de l'instabilité. Et donc c'est ça, c'est cette question de la stabilité et de l'instabilité financière qui va m'intéresser. Et cette question, on ne peut pas manquer de l'aborder d'un point de vue, disons, plus général, qui est d'où viennent les forces de stabilité ou d'instabilité en économie. Comment les économistes pensent la stabilité et l'instabilité? Et le modèle de base de l'économie, c'est la loi de l'offre et la demande. Et cette loi de l'offre et la demande essaye de représenter sur un marché les forces qui sont en présence en montrant que, sous certaines conditions, les marchés s'autorégulent. Cette idée d'autorégulation, elle est vraiment au cœur de la discipline économique, car c'est elle qui a conduit à l'idée qu'on pouvait déréguler les marchés et que les intérêts privés, à eux seuls, étaient capables de s'autoréguler, de telle sorte que ça permettait beaucoup, en quelque sorte, d'économie d'institution, parce que les seuls intérêts privés livrés à eux-mêmes sur ces marchés fonctionneraient de manière satisfaisante. Et au départ, le modèle, c'est un modèle qui a pour objet les marchés de biens. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est pourquoi on a fait cette transposition des marchés de biens aux marchés financiers et en quoi cette transposition me paraît erronée, que ce sont des mécanismes tout à fait différents. Donc, mon premier point, c'est au fond cette présentation de la question d'un marché normal et de la question de l'offre et la demande. Alors, j'ai fait un tout petit tableau, un petit graphique qui rappelle cette démonstration très simple. Dans un marché de biens, les chaises, n'importe quel bien particulier, vous avez une demande et une offre qui se croisent. L'offre, elle est d'autant plus grande. En bas, vous avez les prix et les quantités. Donc quand le prix augmente, si vous regardez la fonction d'offre, elle dit que l'offre augmente parce que les prix augmentent, parce que les producteurs, quand les prix augmentent, ont tendance à plus s'offrir de ça parce qu'ils permettent d'avoir plus de profit. Lorsqu'au contraire, la demande, elle, est décroissante dans les prix, quand les prix augmentent, eh bien, si le prix de cette chaise augmente, les acteurs, nous, les consommateurs, nous allons essayer d'aller trouver d'autres produits substituables qui seront devenus moins chers et donc plus intéressants en nous fournissant la même type d'utilité. Donc on a ici ces fameuses deux courbes, la courbe d'offre dont vous voyez qu'elle est croissante, la courbe de demande qui est décroissante en fonction des prix, et vous avez un croisement. À ce croisement, c'est le prix d'équilibre sur ce marché, je l'ai noté P étoile. Et l'idée de stabilité ici, elle provient du fait que lorsque il y a un choc quelconque sur le prix et que le prix P étoile passe au prix P0, qui est plus grand, donc les prix augmentent. Lorsque le prix devient plus grand, alors vous voyez que l'offre devient supérieure à la demande. Il y a un décalage entre l'offre et la demande. Autrement dit, on demande moins de produits qu'on en offre. Et donc si on demande moins de produits qu'on en offre, il y a une pression à la baisse des prix. En quelque sorte, le marché est inondé de produits qu'on ne veut pas. Et donc les acteurs sont amenés à baisser les prix pour essayer de réduire ce déséquilibre, car ce déséquilibre signifie que des gens n'arrivent pas à échanger. Et c'est pour ça que je mets la flèche dans ce sens-là. Et c'est en cela que l'équilibre est stable, parce que les prix, si les prix ont un choc qui les amène au-delà du prix d'équilibre, les forces qui sont engendrées par l'offre et la demande sur le marché des biens conduit à baisser ce prix, à le retourner, à faire qu'il retourne vers sa valeur d'équilibre. Et le point important ici, c'est cette forme des courbes d'offre et de demande que nous voyons. Toute ma démonstration va me conduire à vous montrer que ce mécanisme-là n'est pas valable sur les marchés financiers, que ça, c'est valable sur certains marchés de biens. Je ne dis pas, d'ailleurs, je n'ai jamais dit que c'était valable sur tous les marchés de biens. Il y a des conditions pour que ça fonctionne. Ce n'est pas la généralité du marché des biens. Mais que sur les marchés financiers, on n'a pas ce mécanisme. Or, ce point est central parce que si on n'a pas ce mécanisme d'autorégulation, alors il y a en quelque sorte, ce marché est fondamentalement instable parce que quand les prix sont élevés, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il y ait des forces qui les ramènent vers le bas. Au contraire, il y a des forces qui conduisent à les ramener, à les faire qu'elles sont de plus en plus hautes. C'est ce qu'on appelle des bulles. Par contre, lorsque les prix sont trop bas, Il n'y a pas des forces qui les ramènent vers le haut, mais des forces qui les conduisent à ce que les prix soient de plus en plus bas. On est dans un crack. Donc ce mécanisme-là, si on est d'accord avec cette proposition théorique de l'instabilité de l'offre et la demande dans le cas financier, parce que ça n'a pas les bonnes formes, les courbes n'ont pas les bonnes formes, alors nous avons là quelque chose de très important, parce que le résultat de dérégulation qui était valable pour les marchés qui étaient capables de s'autoréguler n'est plus valable pour ces marchés-là. Et donc il faut donc absolument éviter de les déréguler, parce qu'ils possèdent en eux-mêmes une instabilité qui leur est propre. Donc vous voyez ici, on est au cœur du sujet. L'instabilité, dans le sens que je vais essayer de décrire, a des racines extrêmement profondes qui tiennent à la nature même des actifs financiers et de la manière dont ils s'échangent. Et c'est ça le point sur lequel je vais essayer de réfléchir. Donc prenons ce cas des marchés financiers. Voilà ce que serait un marché financier. C'est un cas dans lequel la demande, vous voyez, a une pente qui est positive. Là, cette fois-ci, la demande, elle croît avec le prix et elle croît même plus vite que l'offre avec le prix. Souvent, l'offre sur les marchés financiers à court terme, ça va être assez inélastique, ça va être plutôt horizontal. Et on va avoir ce type de... Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure, dans un moment, pourquoi ça a cette forme-là. Mais si ça jamais, ça a cette forme-là, alors il y a toujours un prix d'équilibre qui est celui où les deux courbes se croisent parce qu'elles continuent à se croiser, mais cet équilibre n'est plus stable. Si vous prenez un prix P0 qui est plus grand que le prix d'équilibre, alors à ce prix, vous vous apercevez qu'il y a plus de demandes que d'offres. C'est-à-dire que non seulement le prix est élevé, mais à ce prix élevé, il y a plein de gens qui veulent acheter à ce prix-là, et beaucoup plus que ceux qui offrent, de telle sorte que la pression va être à continuer la hausse des prix. Donc si les courbes ont cette forme-là, si la loi de l'offre et la demande qui est valable sur les marchés de biens ne fonctionne pas, si la demande est positive en fonction des prix, alors il y a ici les conditions d'une instabilité fondamentale du marché financier. Donc c'est un point au fond conceptuel, un point de théorie économique, mais un point qui est fondamental par ses effets sur la manière dont on va penser ces marchés. Alors, pour étudier, essayer de vous présenter cette thèse, je vais commencer par vous parler de l'hypothèse d'efficience des marchés financiers, c'est-à-dire l'hypothèse à laquelle je vais m'opposer, c'est-à-dire l'hypothèse qui croit en effet qu'il y a une stabilité sur les marchés financiers et donc que les courbes d'offres et de demandes sont tout à fait classiques, qu'il y a une demande décroissante et une offre croissante ou non élastique. Donc c'est cette question qui va m'intéresser. Alors, il faut dire d'abord que cette question de l'efficience des marchés financiers, donc veut dire quoi ? Veut dire que les marchés financiers sont efficients ou efficaces, c'est-à-dire que ce sont des structures non seulement stables, mais qui plus est fournissent des prix qui permettent aux investisseurs d'investir au bon endroit. C'est ça l'importance des marchés financiers. Pensons ici, pour avoir une illustration en tête, les marchés financiers sont très nombreux. Il y a les marchés de change, les marchés du crédit, la titrisation, les marchés des matières premières. Donc pensons ici des marchés des obligations, pensons ici au marché des actions, que je vais prendre un peu comme l'archétype de ma démonstration. Donc sur le marché des actions, donc l'idée d'efficience, c'est qu'à un moment donné, le prix des actions et un juste prix. C'est celui qui exprime les conditions de rentabilité réelle du capital qui est coté ici ou là. Ça a des effets très importants parce que cette thèse de l'efficience des marchés financiers nous dit que si on organise le capital à travers la concurrence financière, alors, du fait que les prix sont des bons signaux parce que ces marchés sont efficients, eh bien, le capital ira au bon endroit et l'économie sera prospère. Donc cette question est tout à fait essentielle pour comprendre et justifier la politique de dérégulation. D'ailleurs, c'est bien cette thèse-là qui a dominé tout au long des années 70, 80, 90 et qui a conduit au mouvement de dérégulation. La dérégulation financière, la financiarisation du monde à un niveau extraordinaire que nous avons connu, a été légitimée, a été soutenue par cette conception théorique de l'efficience. C'était parce que certains économistes, disons la majorité des économistes, croyaient à l'efficience des marchés financiers qu'on a développé cette financiarisation et qu'on a développé le rôle des marchés financiers. C'est un endroit ici important à comprendre parce que c'est un lieu, c'est un exemple où on voit l'importance qu'ont les économistes, qu'ont la théorie économique dans le développement de l'économie. Les économistes ne font pas simplement que réfléchir aux lois de l'économie dans le passé, ils ont aussi une action sur l'économie présente et ils construisent en grande partie notre monde. La financiarisation, évidemment, est liée d'abord aux intérêts financiers eux-mêmes, mais ces intérêts financiers, à travers cette théorie de l'efficience, ont trouvé dans les économistes de quoi légitimer leurs propos et de quoi développer la financiarisation. Donc il y a ici un point théorique, conceptuel, important. Donc c'est ce point-là auquel je vais m'opposer, mais je voudrais essayer de faire comprendre comment, pourquoi, selon eux, on a bien les bonnes formes de courbes d'offres et de demandes. Alors, c'est quoi un marché efficient? J'ai pris deux références du pape de la théorie de l'efficience en matière de la théorie de l'efficience, à savoir Eugène Fama, qui est un économiste américain, qui écrit donc « Sur un marché efficient, le prix d'un titre constituera à tout moment un bon estimateur de sa valeur intrinsèque ». C'est ça l'idée. Il y a une vraie valeur des titres. On peut définir cette vraie valeur. C'est ce qu'il appelle la valeur intrinsèque. Et il y a efficience si le prix, eh bien, est un bon estimateur de sa valeur intrinsèque. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure à propos de dire l'efficience, c'est qu'un juste prix. Juste prix, ça veut dire qu'on peut trouver, qu'on peut définir une bonne valeur et que, justement, le marché est celui qui permet qu'il y ait cette bonne valeur. Autre définition, sur un marché efficient, la concurrence entre les investisseurs fera en sorte qu'en moyenne, toutes les conséquences des nouvelles informations quant à la valeur intrinsèque sont instantanément reflétées dans les prix. Donc on a cette idée d'une efficacité de structure qui permet d'évaluer à tout moment, en fonction de toutes les nouvelles informations, la valeur intrinsèque telle qu'on la pense. En 1900, aujourd'hui, il y aurait beaucoup de critiques sur cette question d'efficience. On sort de la crise, on y est encore, et donc la question de l'efficience des marchés financiers, aujourd'hui, on y a pris quelques distances. Mais notez que ce n'était pas du tout le cas avant les années 2005. Là, c'est une citation plus ancienne de 1978 d'un économiste important, Michael Jensen, qui écrit « Aucune autre proposition en économie n'a de plus solide fondement empirique que l'hypothèse d'efficience des marchés ». Financiers, excusez-moi, j'aurais dû continuer, c'est des marchés financiers dont il parle. Donc vous voyez que ici, cette thèse a eu beaucoup de poids et on s'aperçoit ici à nouveau comment l'économie peut être le lieu de débat avec des oppositions assez importantes, surtout sur un point comme ça. Alors, la valeur, cette valeur intrinsèque, comment est-ce qu'on la définit? Je vais dire un moment avant que vous regardiez la diapositive. Il faut donc, le problème pour la théorie de l'efficience, c'est définir la valeur intrinsèque. Et je voudrais vous faire comprendre pourquoi c'est compliqué, en fait. Parce qu'un titre financier, tous les titres financiers, c'est dans leur nature d'être des droits, pensés aux actions, sur des revenus futurs incertains, sur des choses, des profits futurs qui sont incertains. C'est vrai d'une action. Une action, c'est un droit sur des dividendes, donc à venir pour une entreprise, qui vont dépendre des profits, et donc ça va être fortement incertain. C'est aussi vrai d'un crédit. Un crédit, c'est un droit sur des taux d'intérêt, mais qui sont, des fois, ils peuvent être fixés, mais ils sont incertains parce que vous avez toujours la possibilité que l'emprunteur fasse faillite ou non, et donc il y a un risque de crédit, etc., etc. Donc, à chaque fois, les actifs financiers, c'est des droits sur le futur. Donc, c'est un rapport au futur. Et donc, on voit la difficulté ici, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, de définir ce que c'est que la bonne valeur. Parce que la bonne valeur, ça renvoie forcément à une capacité à savoir ce qu'est le futur. Et par définition, nous savons, vous et moi, que le futur est radicalement incertain et qu'il y a des problèmes pour définir ce que c'est que la vraie valeur. J'y reviendrai dans une minute. Par exemple, pour ce qui est d'une action, alors excusez cette formule, une action, donc, eh bien, elle a une valeur, sa valeur fondamentale, ce qu'on appelait la valeur intrinsèque, c'est ça sa valeur, et elle va se calculer à partir des dividendes futurs. C'est ce qui est écrit D de T, on se passe à l'instant T, hein, aujourd'hui c'est T. Et puis, cette action va me donner des dividendes, c'est ça une action, des dividendes en T plus 1, T plus 2, T plus N. Et la valeur de l'action doit, au fond, c'est une espèce de calcul qui nous permet de faire la somme de ces dividendes pour savoir ce que ça vaut aujourd'hui. Mais comme il faut actualiser, parce que 1 euro aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que 1 euro dans 10 ans, parce que si vous avez 1 euro aujourd'hui, vous pouvez le placer à un taux sans risque et il vous donne beaucoup plus dans 10 ans. Il y a un problème d'actualisation, mais ça ne vous intéresse pas ici. Simplement noter qu'on a ce type de formule qui permet de calculer ici la valeur fondamentale. Et donc, on a un schéma. Le schéma de l'efficience, on peut au fond le définir comme ça. Il y a cette boîte qui est le marché. Vous avez des agents. Les agents essayent de calculer au mieux qu'ils peuvent cette valeur fondamentale, ce qu'on a vu. Donc il y a la valeur fondamentale ici qui est exogène. Ça, c'est la représentation d'efficience. Il y a la valeur fondamentale qui est exogène. Chaque agent essaye à ses estimations de la valeur fondamentale et le prix va exprimer une moyenne de ces valeurs fondamentales. Donc c'est comme ça que fonctionne le système de l'efficience. Alors pourquoi est-ce qu'il est stable ? Parce que dans cette conception, la valeur fondamentale est un ancrage objectif qui, selon les partisans de cette théorie de l'efficience, permet justement d'interdire les dérives de prix. C'est ça la chose importante de comprendre, c'est que dans la théorie de l'efficience, il y a cette idée d'une objectivité de la valeur qui s'impose aux acteurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, par exemple, on calcule un titre et on dit « ce titre-là, je crois qu'il vaut 100 », alors, si le prix augmente à 120, je ne vais pas acheter 120 quelque chose qui vaut 100. Et c'est pour ça que ma demande, et plus le prix sera élevé, à 130, je n'achèterai pas quelque chose qui vaut 100. Par contre, à 80, je vais acheter, avec beaucoup de profit, 20, quelque chose qui vaut 100. Donc, si vous avez cette représentation, elle justifie le fait que la demande soit en effet décroissante avec le prix. Plus le prix augmente, plus vous vous éloignez de la vraie valeur que vous connaissez, et plus votre demande va baisser. Donc, ce comportement, on l'appelle quelquefois le comportement fondamentaliste. C'est lui qui justifie le fait qu'il y ait une demande négative avec le prix et c'est lui qui justifie l'autorégulation, le premier schéma, et c'est lui qui justifie l'efficience. Donc tout mon travail, ça va être de montrer en quoi les choses ne se passent pas comme ça. En quoi, je montrerai qu'il n'y a pas d'objectivité de la valeur, ça sera facile parce que vous allez en être convaincu très rapidement. Parce que, évidemment, le futur, on ne sait pas ce que c'est, donc c'est difficile de dire que c'est objectif et qu'on le connaît. Et deuxièmement, je vous montrerai que, en fait, les comportements ne sont pas du tout de cette nature et qu'on ne compare pas du tout avec une vraie valeur dans la tête des acteurs, parce que ce n'est pas du tout ça un marché. Donc, mais vous voyez ici, quand même, par rapport à mon propos, comment, en effet, on est bien autour du sujet, c'est-à-dire la question de est-ce que la demande est croissante ou non avec les prix. Et qu'en fonction de cette conception théorique, eh bien, vous allez avoir un jugement différent sur le fait, sur la manière dont il faut gérer les marchés financiers. Donc on a, moi qui suis un théoricien, c'est important pour moi de montrer comment c'est cette question-là et pas une autre qui est la bonne question. Alors avant de rentrer dans la critique conceptuelle de cette idée, je voudrais quand même vous donner quelques illustrations qui vont nous montrer que les marchés sont quand même loin de fonctionner de cette manière-là. La première, c'est ça, ça représente le marché boursier américain. Le marché boursier américain, vous apercevez qu'il est loin d'être quelque chose qui est très stable autour d'une valeur fondamentale, mais vous voyez des pics qui correspondent aux bulles, 1901, 1929, 1968, 1966 et 2000. Donc le marché financier ici, la première illustration quand on le regarde comme ça, on regarde les cours de cette manière, on se dit mais ça n'a pas l'air de ressembler à cette efficience qu'on indique. Quelqu'un pourrait faire la remarque en disant mais attention, peut-être qu'à ces moments-là, il y avait plus de profits. Et comme la valeur, ça dépend des profits, peut-être qu'en fait, c'est la question des profits qui fait qu'il y ait ces bulles. Alors, en fait, ce diagramme-là tient compte des profits parce que ce qui est présenté, c'est écrit en bas. Donc, vous voyez les années, j'aurais dû aller peut-être un peu moins vite, entre 1860 et 2000 ici. Et ce qui est montré, ce n'est pas le prix, c'est le prix divisé par le bénéfice, par le profit. de telle sorte que ça tient compte, quand les profits, il est normal que quand les profits augmentent, le prix augmente. Mais là, ce qu'on analyse, on tient compte de cet effet, on analyse le rapport du prix au bénéfice, qu'on appelle le price-earning ratio, qu'on dit aussi PER, qui est une grande variable qu'utilisent beaucoup les investisseurs boursiers. Et vous voyez que le PER, c'est-à-dire le rapport au profit lui-même, varie beaucoup de manière extrêmement forte. Il est difficile là-dessus de dire est-ce que ça prouve ou non la théorie d'efficience, parce qu'il y a d'autres facteurs, mais ça nous donne quand même un argument sur le fait qu'il y a une volatilité, il y a une variabilité des cours qui nous donne l'impression qu'il y a quand même plutôt des bulles et des cracks que de l'efficience. Le deuxième graphique, qui est très célèbre, c'est un graphique qui a été écrit et conceptualisé par Robert Shiller, un économiste. C'est ancien, puisque vous voyez que les prix là, varient entre 1868 et 1970. Ce qu'a fait Robert Shiller sur ce graphique, c'est qu'il a calculé, il a dit évidemment aujourd'hui, je ne connais pas les dividendes futurs, bien entendu, mais dans le passé, je connais toutes, quand je suis en 1870, je connais toute la série des dividendes, au moins jusqu'à aujourd'hui. Donc je peux calculer une valeur fondamentale dans le passé, à partir des dividendes. Plus je m'approche du présent, évidemment, plus la part du futur que je ne connais pas est importante, et moins c'est bon. Mais j'ai quand même une évaluation sérieuse de la valeur fondamentale, au sens que j'ai défini. Et vous apercevez à nouveau, voyez, la valeur fondamentale ne varie pas beaucoup, alors que les prix de marché, le cours boursier, ici varie de manière extrêmement forte. Et on peut montrer que cette volatilité, ces écarts, sont beaucoup trop grands par rapport à la variabilité du monde réel. Donc autrement dit, je pense qu'aujourd'hui, comme on vit la crise, vous êtes tous un peu convaincus, je ne vais donc pas aller là-dessus, mais autrement dit, la question de l'efficience est vraiment problématique parce qu'il y a des mouvements sur les marchés qui n'ont aucun rapport avec les grandeurs réelles. Il faut bien savoir que des grandeurs réelles, c'est par exemple le taux de croissance de l'économie, c'est quelque chose comme 5% par an, et que les variations de cours, ça peut être quelque chose de 10% par jour. Donc on comprend bien qu'il y a un problème à pouvoir... Il y a une espèce d'écart entre une économie réelle qui forcément est un peu stable et des cours qui varient beaucoup trop par rapport à ça. Donc une deuxième raison pour penser que cette théorie d'efficience, en effet, il y a lieu de regarder de plus près ces questions de stabilité parce que ça n'a pas l'air de fonctionner ainsi. Un troisième graphique, et j'en aurai fini là-dessus, sur ça. Vous prenez, ici, il s'agit, n'essayez pas je vais le lire avec vous, il s'agit de prendre un rendement d'un actif. Alors, on va prendre la première ligne, c'est un indice des actions européennes. C'est écrit Market Europe Indice, le MSCI Europe. Voilà. On calcule quel est le rendement sur 15 ans que vous rapporte en taux actualisé la détention de cet actif sur 15 ans. Donc, sur 15 ans, entre juin 1993 et juin 2008, on a calculé que si vous gardiez cet actif, ça vous faisait un rendement de 9,27%. Annualisé. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les meilleurs jours, c'est-à-dire les jours où il y a eu des très très fortes augmentations de prix. L'augmentation centrale est liée à ces variations de prix. Quand vous enlevez les 10 meilleurs jours sur 15 ans, vous voyez 10 meilleurs jours sur 15 ans. 15 ans, ça va nous faire à peu près 3000, 4000, 5000 points. Donc on en enlève 10 sur 5000. Là, rentabilité moyenne annuelle passe de 9,27 à 5,68, ce qui est un écart absolument incroyable parce qu'on a enlevé une infime partie de l'échantillon. Ce qui veut dire que ces jours-là, il y a eu des augmentations extrêmement fortes. Si vous enlevez les 20, vous tombez à 20, qui n'est quand même pas grand-chose, 20 jours sur ça, 3%, 0,9% pour les 30 et les 40, vous tombez quelque chose qui est négatif. Ce que ça signifie, qui est aussi bien connu des financiers, c'est que la variabilité est extrêmement faible, extrêmement forte. On n'est pas dans un système, comme on dit, gaussien, ou les lois normales, où vous avez des petites variabilités qui s'accumulent tout au long du temps et qui forment la rentabilité globale. Vous avez au contraire des variations extrêmes à la hausse et à la baisse. Et c'est ça qui forme une grande part de la rentabilité. Et ça, ce fonctionnement-là nous conduit à nouveau à nous dire qu'il y a une variabilité dans les cours qui est tout à fait problématique. Et c'est ça qu'il faut ici analyser.